Nous revoilà, Mario Langlois, en direct. Encore plusieurs invités à vous proposer au cours des prochaines minutes. Mais à l'instant même, c'est un plaisir pour nous d'accueillir celui qui est le lieutenant québécois du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Nul autre que le député d'Honoré Mercier, Pablo Rodriguez. Monsieur Rodriguez, ou monsieur le ministre, devrais-je dire, bonsoir.
Ah bon, on va laisser faire, là, monsieur le ministre, Mario. On va se tutoyer, c'est correct?
Ben, c'est bien correct comme ça. C'est bien correct, Pablo. Comment ça va?
Top shape. Écoute, top shape, je reviens à Montréal. Là, ça fait deux semaines que je suis à Ottawa. Là, j'ai pas eu l'occasion de revenir là avec toutes les négociations entourant le Parlement et tout ça. Fait que je vais revoir ma famille. Là, que j'ai pas vu ça fait deux semaines. Mais ça va bien.
Donc, tout le monde, évidemment, et quelqu'un l'a dit récemment, ceux qui continuent de travailler, c'est plate, on a beaucoup d'empathie et toutes nos bonnes pensées pour ceux qui, actuellement, ne sont pas en mesure de travailler. Mais ceux qui travaillent, je pense qu'on peut dire, dans la plupart des cas, travaillent plus fort que d'habitude. C'est vrai, je pense, dans toutes les sphères de la société, même chez les élus.
T'as raison, absolument. Écoute, c'est fourette, mais je me plains pas parce que c'est un honneur, c'est un privilège de faire ce que je fais puis d'être capable de donner un petit coup de pouce mais aux gens. Mais c'est vrai, c'est 17 jours semaine. Moi, dans le cas comme membre du cabinet, ben c'est tous les programmes que tu as vu qu'on a mis d'avant, la prestation canadienne d'urgence, le coup de pouce aux entreprises, l'aide aux aînés, fait que c'est monter ces programmes-là, c'est expliquer à la population, et ainsi de suite. Fait que ça arrête pas, mais c'est une période exceptionnelle, tu sais, hein, c'est hors du commun. Fait que ça veut dire que nos vies, à chacun d'entre nous, sont hors du commun aussi.
Au début de la pandémie, et même au milieu, puis encore, j'ai souvent dit, puis c'est juste mon opinion, là, ça vaut pas plus cher que celle d'une autre, que l'action vaut mieux que l'inertie, quitte à s'ajuster en chemin. En ce sens, Ottawa a donné beaucoup d'aide financière. Je disais, il pleut des milliards. Est-ce qu'on est rendu à l'étape, Pablo, où il faut surveiller, là, tu sais, c'est correct qu'on a ouvert les valves au début, on se rend compte qu'il y a des vlimeux, des fois, qui essaient de profiter du système, que ce soit avec la PCU, que ce soit avec d'autres choses. Est-ce que on est entré à l'ère, là, de surveiller puis peut-être de resserrer un petit peu les mesures de l'aide initiale qu'on a voulu donner avec beaucoup d'empathie, là?
Ben écoute, on le fait de façon régulière, Mario, puis t'as raison, puis des vlimeux, comme tu dis, tu vas tout le temps en avoir, en temps de pandémie ou en temps normal, là, t'en notes ces gens-là, puis on va essayer de les pogner. Mais t'as aussi raison sur le fait que nous, on a privilégié la rapidité. On s'est dit, on va privilégier la vitesse plutôt que la perfection, puis on va s'adapter en chemin. Pourquoi? Parce que t'as des millions de personnes qui ont perdu leur job, là. La PCU, là, c'est 8 millions de personnes qui ont appliqué, c'est le fameux 2 000 $ par mois. Puis ces gens-là, ben, ils en ont besoin de cet argent-là pour payer le loyer, pour mettre la bourse à la table, pour les enfants. Alors, on s'est dit, on va bouger rapidement, puis on s'adaptera. Puis c'est ce qu'on fait. Quand on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins, on s'adapte. Mais on peut pas abandonner les gens. Vraiment pas. Faut bouger vite.
Dans les discussions du Conseil des ministres, bien qu'on est encore en mode intervention, en mode entraide, jusqu'à quel point, Pablo, on parle de la façon et du moment à partir duquel un jour on va gérer la dette qu'on s'est creusée en l'espace de quelques semaines seulement, là, qui chiffre autour des, qui atteindra, je peux, les 300 milliards de dollars? Ça fait partie des réflexions, même si on aide actuellement, puis on veut pas trop en parler de ce qui s'en vient?
C'est toujours là, parce qu'écoute, l'économie, c'est fondamental, là. Mais on est encore à une étape, Mario, de stabilisation. Là, on n'est même pas dans une étape où on parle de relance économique. Là. Fait que là, on doit se concentrer sur stabiliser les programmes, stabiliser notre façon de faire, préparer par la suite la réouverture, préparer éventuellement la relance. Mais tu sais, quand les gens me disent « Hey, tabarnouche, c'est beaucoup d'argent, on a-tu les moyens? » Moi, ma réponse est tout le temps « Ouais, mais on avait-tu les moyens de pas le faire? » Mm-hmm. On pouvait-tu laisser du monde en arrière? On pouvait-tu ne pas mettre un programme, mettons, de subvention salariale qui permette aux entreprises de garder leurs employés? Parce que ça, c'est fondamental, tu sais. Parce que si les entreprises sont plus là, qu'on va peser sur le piton pour partir, là, ben, il n'y aurait pas personne pour partir. Faut qu'elles soient là, faut qu'elles soient vivantes. Puis plus que les entreprises sont solides, ben plus qu'on va repartir vite ensemble.
Il reste que, je pense que la question se pose sans, et je la pose pas de façon critique à l'égard des programmes d'aide qui ont déjà été déployés, mais est-ce qu'il se pourrait qu'on dépense trop de cartouches et qu'il nous en manque pour faire face à une possibilité de deuxième vague et qui est là, on n'a pas de certitude de ce côté-là, mais c'est une hypothèse.
Ben écoute, puis t'as raison, puis y a aucune certitude, puis une deuxième vague, bon, faut probablement en avoir une. En fait, la question, c'est comment sera-t-elle, tu sais, puis ça va dépendre de chacun d'entre nous, tu sais, puis je pense que rarement dans l'histoire, le comportement d'une seule personne là, va avoir autant d'impact sur tous les autres qui l'entourent, tu sais. C'est la façon dont on se comporte, dont on porte un masque, dont on s'isole lorsque nécessaire, lorsqu'on garde la distance, ben si on fait notre job correctement, on va s'en sortir correctement. Si on la fait pas bien, ben, elle va faire mal, la deuxième vague, tu sais. Puis nous, il va falloir qu'on s'assure d'avoir le moyen d'être là. On peut pas ne pas être là pour aider les gens.
Ben, c'est ça. Donc, sur les moyens d'être là, c'est que, c'est un puits sans fond, en quelque sorte, la possibilité d'aider. Est-ce qu'il y a le dénominateur commun du fait que tous les pays sont dans la même chenoute? Donc, 300 milliards. Puis, tu sais, je présume pas qu'on va être à 500 milliards dans un an. Mais il n'y a pas personne qui peut me garantir que ce serait pas le cas, par exemple, s'il y a une deuxième vague.
Non, mais t'as raison, mais ça peut être aussi beaucoup moins que ça, hein, parce que dis-toi que nous, quand les gens font des calculs, ils disent OK, si tout le monde se prévaut de ce programme, ça va donner ça. Mais tu sais, il y a des programmes, mettons, comme la subvention salariale, à beaucoup moins d'entreprises à un moment donné qui l'ont demandé, là, je pense que ça a augmenté. Fait que les coûts étaient moindres. Ils rentrent aussi dans les coûts, l'impôt différé. Tu sais, on a dit aux gens, t'as pas à le payer tout de suite, t'as une couple de mois, donc donne un break, tu le paieras plus tard. Mais cet impôt-là, il doit être payé éventuellement aussi au gouvernement. Alors, on regarde les scénarios dans les extrêmes, dans les pires. Fait que ça peut, oui, peut-être être pire, mais ça peut être aussi beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui, par exemple, de dire, OK, on va faire une évaluation fiscale de où on va en être dans quelques années. Pour l'instant, tout bouge trop rapidement.
Je voulais revenir en ta compagnie, Pablo, sur l'implication de l'armée qui a été saluée là, autant en Ontario oui. qu'au Québec. Les gens, puis j'ai eu l'occasion de parler à des intervenants du personnel de santé qui ont beaucoup apprécié leur présence. C'était même touchant de voir les adieux qui se sont faits entre le corps médical et le corps militaire. Oui. Je sais pas si tu as vu les images de ça. C'était pas mal spécial. Mais as-tu été surpris quand tu as pris connaissance du fait qu'il y avait des rapports qui allaient être publiés, puis qu'en plus, ben que ces rapports-là sont devenus publics alors que ça aurait pu se passer à l'interne? Est-ce que c'est quelque chose que tu savais ou que vous saviez au gouvernement qui allait arriver?
Moi, personnellement, je ne savais pas, mais ce qu'on m'a expliqué par la suite, c'est que l'armée fait toujours des rapports sur ses missions, tout le temps, quel que soit. Ce type de mission-ci, qui est quelque chose de plus rare, ou les missions à l'étranger ou ailleurs, ou que ce soit dans le cas de venir aider ou au niveau des inondations, les feux de forêt, l'armée fait toujours des rapports à la hiérarchie, tout le temps.
Que l'armée fasse des rapports sur chacune de ses interventions, c'est une chose, mais est-ce que ça a servi à une cause ou une autre que ça soit publié, parce que c'est pas publié par hasard, là?
Ben écoute, je sais pas qui l'a publié. Je pense pas que ce soit l'armée comme telle. Si je me trompe pas, ce sont les gouvernements provinciaux qui ont essayé de publier les rapports. Moi, ce que j'espère, c'est que toutes ces discussions-là vont nous faire réfléchir sur la situation de nos aînés qui souffrent énormément. C'est sûr que dans le cas de la... Tout ça est exacerbé actuellement. Là, dans le cas de la pandémie, tu regardes la solitude, l'inquiétude au niveau de nos aînés, le fait qu'ils peuvent pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants, puis pas parce que leur famille veut pas les voir, mais c'est une façon de les protéger, tu sais. Tu sais, tout ça était exacerbé par la crise actuelle, mais ça, les rapports nous disent aussi, Colin, il y a du travail à faire dans les centres de longue durée. Là. Il y a du travail à faire chez nous, pas juste au Québec, hein, partout au Canada.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, de troublant puis d'un peu confrontant d'être obligé d'appeler à l'aide de nos soldats canadiens pour aller dans des résidences de personnes âgées ici au Québec et en Ontario. Maintenant, il n'y a pas de conflit armé dans lequel ils sont appelés à intervenir à l'extérieur. Alors, pourquoi il faut vraiment négocier le fait qu'ils poursuivent leur mission ici, puisqu'on n'a pas personne d'autre, malheureusement, pour faire la job qu'ils sont venus faire, qui a été tellement apprécié?
Parce que on parle ici surtout de personnel médical. Alors, l'armée est super étirée. Si tu me parlais de soldats réguliers qui transportent des bébelles ou des choses, du matériel ou de l'équipement, c'est une chose. Mais ils ont envoyé à peu près tout le monde qui avait, là, une très grande partie du personnel médical, surtout au Québec, un peu en Ontario. Et ça fait en sorte que les troupes, les bataillons ne peuvent pas nécessairement opérer parce que ça prend un minimum de médecins par bataillon, un minimum d'infirmiers, etc., etc. Donc, ça devient complexe. On est en train de regarder ça, mais c'est sûr que l'objectif, c'est toujours de pouvoir répondre présent puis d'être là, mais ça devient un peu compliqué. L'autre chose, c'est que, mettons qu'il arrive quelque chose dans le Nord, OK? Mettons qu'il y a dans le Nord, là, ça éclot, puis il y a une pandémie, puis c'est l'enfer. Il y a juste l'armée qui peut y aller, mais tout le personnel médical qui est actuellement en train de servir doit se confiner pendant 14 jours. Ils pourront pas aller aider directement. Alors, faut regarder tout ça dans ce contexte-là. Mais moi, c'est sûr que mon choix, c'est qu'on réponde toujours présent, mais puis qu'éventuellement, on puisse faire le nécessaire ici, au Québec, en Ontario, ailleurs, pour prendre la relève.
C'est une réponse intéressante pour les gens qui se joignent à nous. On est en conversation avec le lieutenant québécois du gouvernement libéral, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, l'autre que le député d'Honoré Mercier, Pablo Rodriguez. Pablo, à regarder le bilan de chacune des provinces dans les résidences de personnes âgées, là, quand on constate que 25% de la population du Québec aura 65 ans d'ici 10 ans ou 15 ans, puis tout ouais. le monde là, au Canada, ça va être vieillissant. Dans quelle province aimerais-tu vivre dans une résidence personnes âgées à la lumière des constats qu'on a fait?
Écoute, tu regardes les chiffres, c'est sûr qu'il y a plus de parents chez nous, mais moi, je voudrais jamais vivre ailleurs qu'au Québec. Tu sais, j'adore, je suis bien chez nous, mais c'est sûr qu'il y a du travail à faire en temps, par nous, dans toutes les résidences, nous soins. Écoute, ces gens-là, les aînés, là, c'est ceux qui ont bâti notre société, le monde dans lequel on vit, on leur doit, tu sais. Et on leur doit respect, on leur doit infini. Encore une fois, pas juste au Québec, là, partout, partout au Canada. On se rend compte que nos aînés sont vulnérables, puis au moment où il fallait répondre présent, on n'a pas nécessairement pu répondre présent comme on aurait dû. Puis il y a des changements qui vont devoir être apportés partout.
Je repensais à ça, c'est une réponse intéressante que tu nous as fournie par rapport à l'utilisation des forces armées, au même titre qu'il faut combler les postes à combler dans le système de la santé et de résidence personnes âgées au Québec et peut-être ailleurs dans les autres provinces. Le fait d'avoir vu que notre armée pouvait être utile dans d'autres choses que des missions à l'extérieur, comme ça a été le cas là, puis d'autres fois dans d'autres genre de problèmes, des inondations, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une réflexion pour peut-être, à l'avenir, on ne sait pas quand il y aura une autre pandémie, quand il y aura une autre deuxième vague, pour développer plus de personnel qui pourrait aider avec en matière de soins pour des interventions futures, si le nombre d'intervenants dans l'armée... Oui?
Ah, écoute, t'as raison, t'as totalement raison. Là. Je pense qu'il va falloir repenser le rôle de l'armée. Les gardes traditionnels, ça va être très différent aussi. Tu peux éventuellement avoir des gardes bactériologiques ou des trucs comme ça. Donc, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus aussi de médecins. À mon avis, écoute, je suis pas un expert, là, puis je suis pas le ministre de la Défense, là, mais mon collègue fait bien sa job, mais il va falloir probablement avoir beaucoup plus de médecins, d'infirmiers et tout ça dans l'armée pour se préparer à d'autres types de pandémies qui... De se développer éventuellement aussi à travers le monde. De la même façon, il va falloir qu'on soit, à mon avis, plus autosuffisant sur le plan alimentaire. Tu sais, c'est-à-dire, le travail que nos fermiers font, là, on le valorise pas assez. Là. C'est essentiel. Puis nous, on s'en rend compte en tabarnouche, là, parce que les frontières sont fermées, c'est plus compliqué à obtenir de la bouffe et tout ça. Fait qu'il va falloir devenir, à mon avis, plus autosuffisant. Et aussi, au niveau du matériel médical et de protection. Tu sais, t'as vu là, comment il y a une course mondiale pour aller chercher le matériel. Là, on est correct, on est capable d'aller en chercher un peu partout, puis ça va bien, mais je pense qu'il va falloir en faire un effort de ce côté-là aussi. Il y a bien des choses qui vont changer, Mario.
Je ne sais pas si les gens le savent, Pablo Rodriguez, c'était un amateur de sport. Maintenant, ouais. Là, je te parlerai pas de sport comme tel, mais d'équipe sportive professionnelle. Le groupe CH est devenu officiel aujourd'hui, a demandé l'aide du gouvernement du Québec pour l'accompagner dans la reprise des activités lorsque les rassemblements seront permis. Et il y a peut-être d'autres équipes qui demanderont de l'aide, tantôt à leur gouvernement provincial, tantôt à leur gouvernement fédéral. Je sais que tout le monde souffre en temps de pandémie, mais l'aide aux équipes professionnelles, ça a toujours été difficile à faire passer dans l'opinion publique. Est-ce encore la même chose malgré la pandémie?
Écoute, tu sais la réponse. C'est sûr que si ils ont besoin d'un coup de pouce, s'ils se qualifient, c'est vraiment un besoin criant. Mais en même temps, ces équipes-là, souvent, ont des très gros revenus, ont des contrats de télévision intéressants. Tout ça. Fait que je suis vraiment mal placé, Mario, pour te répondre là-dessus. Là. Je ne sais pas quoi dire.
Est-ce que tu sais s'ils ont demandé de l'aide ou s'il y a une équipe qui a demandé de l'aide?
Non, je ne suis pas au courant.
OK, pas au courant de ça. Par rapport à la Ligue canadienne, aurais-tu une opinion, compte tenu que c'est une Ligue canadienne qui vit dans des paramètres financiers différents? C'est du sport professionnel également. Est-ce qu'il y a là une symbolique? As-tu quelque chose où il faut avoir une attention particulière?
Ben, c'est toujours délicat quand on parle de sport professionnel où il y a quand même des revenus qui sont assez intéressants, des salaires assez intéressants aussi. L'implication des grands réseaux de télévision qui amènent beaucoup de capital. Mais sauf que, tu sais, en temps de pandémie actuellement, il n'y a plus aucune vérité qui tient. Là. Je veux dire, tu peux voir des énormes compagnies que tu dis, ouf, ils n'auront jamais de problème, puis pourtant tu te rends compte que, oui, ils ont plié les chines, puis ils sont quasiment à genoux, tu sais. Puis nous, ben, le rôle du gouvernement, c'est essayer de voir comment on peut aider, puis notre job, dans le fond, c'est essayer aussi surtout d'aider les travailleurs. C'est pas les gros boss, les grosses compagnies, c'est voir est-ce que nos programmes peuvent donner un coup de pouce aux travailleurs dans ces entreprises-là.
Ouais, ça, je suis content de l'entendre parce que les gens ont le sentiment, particulièrement dans le monde artistique, par exemple, que les gouvernements sont là, puis là, je parle d'intervention de Québec, c'est pas Ottawa, avec le Cirque du Soleil, alors que les artistes actuellement sont laissés un petit peu de côté. Alors oui, c'est intéressant de s'intéresser à l'individu. C'est capital de s'intéresser à l'individu.
Oui.
Mais je remarque cependant l'expérience d'un politicien qui a probablement vu ça dans le lexique 101 des déclarations à pas faire, dire en temps de pandémie que ce serait une bonne idée d'appuyer une équipe professionnelle. Non, c'est pas recommandé, hein, je pense, non?
Gars, t'as-tu d'autres questions?
Ben justement, est-ce que le sport comme spectateur te manque, Pablo? Est-ce que le soccer te manque? C'est le soccer ton sport numéro un, hein?
Ouais, moi, je suis un fan de soccer. Écoute, j'aime énormément le hockey aussi. J'ai joué beaucoup quand j'étais jeune. Mais j'ai un petit fait pour le soccer, pour l'impact, et le fait qu'on prépare une relève avec Mathieu Chouinard, avec Samuel Piette, tout ça. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai hâte de le voir. Je sais pas comment ça va être possible. Est-ce que ça va se faire dans des stades vides? Ça se fait en Europe actuellement. Ça fait un peu bizarre. T'entends pas de bruit. T'entends un gars taper des mains sur le bord du banc, c'est tout, là.
C'est comme si on entendait tout le monde en chambre ou à la Chambre des communes. Des fois, quand dans le langage sportif, on appelle ça du trash talking, mais quand il y a des paroles un petit peu désobligeantes en chambre, ouais, c'est comme si on entendait tout. Ça va être un petit peu ça, le sport professionnel sans spectateur.
Ça va être spécial. Écoute, oui, ça va être spécial. Mais oui, ça manque. Je pense que ça manque à la population en général parce que on est habitué à ça, qu'on a besoin de ça pour s'évader. T'sais, on a besoin des matchs du Canadien. On a besoin du festival des francopholies, du festival de jazz, juste pour rire. On a besoin d'aller voir un spectacle à Place des Arts. T'sais, c'est, tout ça, ça fait partie de ce qu'on est. Ça fait partie de notre ADN. Puis pour l'instant, on peut pas. C'est difficile. Mais regarde, ils vont faire les efforts nécessaires et on va passer à travers.
Eh bien, sur ce, Pablo, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Un gros merci d'avoir été là et bonne fin de semaine.
C'est moi qui te remercie, Mario. À bientôt. Salut.
C'était le député d'Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, lieutenant du gouvernement Trudeau, ici au Québec.